RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
Bonjour à tous, Motors en direct jusqu'à 14h. Salut Jean Lecroix.
Louis Amar, bonjour à tous.
Édition spéciale F1 ce dimanche, Grand Prix d'Azerbaïdjan dans un peu plus d'une heure. On va revenir en détail sur les qualifications, la pole de Bottas, l'accident de Leclerc et les déboires de nos Français. Et puis Renault fait ce week-end les 40 ans de sa première victoire en Formule 1. Deux anciens pilotes emblématiques, Jean-Pierre Jabouille et René Arnoux, seront avec nous avant 13h30. Enfin le rallye et la formule électrique évidemment à 13h45 dans Radio Paddock. C'est parti pour Motors, bienvenue. Adrien Tambay est là, de la Dream Team RMC Sport. Salut Adrien.
Salut Louis, bonjour Jean-Luc.
Comme
salut
à chaque jour de Grand Prix. Et Lucas Vinoy peut presque apercevoir la mer Caspienne s'il se penche un peu. Il est en direct de Bakou. Salut Lucas.
Salut Louis, bonjour à tous. En effet, je la vois presque et il fait très très beau ici à Bakou. Un soleil absolument magnifique.
Pas trop de vent, parce que ça peut être un problème, notamment l'année dernière.
Un petit peu de vent, ça dépend, c'est assez irrégulier, mais quand il se met à souffler, c'est vrai qu'il est assez violent.
Dans un instant, on revient donc sur les qualifications de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan qui ont vu hier Valtteri Bottas s'emparer de la pole position. Avant cela, deux directs en cours en ce début d'après-midi. On commence par du rugby, la suite de la 23e journée de Top 14. Toulon accueille l'Union Bordeaux-Bègles. Florent Germain, salut Flo.
Salut Louis, il reste 5 minutes à jouer avant la mi-temps et c'est Toulon qui est devant. Déjà 3 essais d'ailleurs pour les Toulonnais dans cette rencontre. 17-10 là pour le RCT. Les marqueurs se nomment Nakosi, Bastaro et Julien Horry. C'est pourtant Bordeaux-Bègles qui avait ouvert la marque avec un essai d'Alexandre Rouma. 17-10 donc pour Toulon à 4 minutes de la pause.
Ce dimanche également du vélo, Liège, Bastogne, Liège, Arnaud Souk. Salut Arnaud.
Salut Louis, salut à tous. 155 km encore à parcourir pour les 8 hommes de tête dans cette doyenne des classiques. Ils ont 6 minutes 25 d'avance sur le peloton des principaux favoris. Ils sont partis dès le kilomètre 1 et parmi ces 8 hommes, eh bien, on retrouve 3 Français. Lilian Calmejean, Julien Bernard et Jérémy Maison.
Merci Arnaud. 13h06 sur RMC, tout de suite la formule.
RMC Motors.
Grand Prix d'Azerbaïdjan tout à l'heure, départ 14h10, à suivre évidemment en direct, en intégralité sur RMC avec Jean-Luc, Adrien et Lucas. Et c'est donc Valtteri Bottas qui va s'élancer en pole position. Un mot avant qu'on l'écoute, Jean-Luc, sur cette nouvelle performance impressionnante de Valtteri Bottas qui décidément est un encombrant équipier pour Lewis Hamilton.
Eh ben oui, écoute, c'est sa 8e pole dans sa carrière, effectivement, la 2e consécutive après la Chine. Honnêtement, on ne l'avait pas vraiment vu venir, il a dû bénéficier d'une très très belle aspiration, ça fait partie du jeu dans les longues lignes droites de Bakou, et il est sorti au bon moment, alors que les Mercedes étaient un peu perdus, il faut bien le dire, en essais libres. Ça concernait également Hamilton, on les avait vus faire beaucoup de tout droit, se rater au freinage, ils étaient mal équilibrés, pardon, et les Ferrari paraissaient dominer leur sujet. Et puis voilà, on va y venir évidemment. Il y a eu l'erreur de Charles qui l'a payé cash. Et puis Vettel n'a pas été capable de tirer le meilleur. Donc Bottas surgit au bon moment. D'ailleurs, Hamilton spontanément est venu le prendre dans ses bras et le féliciter après cette pole.
On l'écoute, Valtteri Bottas, justement à l'issue des qualifications. Vous allez voir, il ne s'attendait pas forcément à ce que Mercedes domine à ce point ses séances. Il est au micro de Lucas Vinoy.
Je pense que pour nous, en tant qu'équipe, c'est un petit peu une surprise. Les Ferrari avaient été très fortes depuis le début du week-end. Nous avons réussi à faire en sorte que tout se déroule parfaitement. Le temps, les écarts, tout s'est bien passé. Et je pense que plus la piste avait de l'adhérence, plus le comportement de notre voiture s'améliorait.
Surpris, tu reprends ce mot aussi, Adrien ?
Bah surpris, oui et non, parce que quand on voit le début de saison, il y a une équipe qui arrive à maximiser le potentiel de sa voiture et à chaque fois et obtenir le meilleur résultat possible, et c'est Mercedes. Et encore une fois ici en qualification, c'était à mon avis pas la voiture la plus performante, mais ils ont réussi à piéger un peu Ferrari en partant des stands et en s'arrêtant pour faire un faux essai de départ en fait à la sortie des stands, et Vettel s'est retrouvé tout seul puisque Charles Leclerc s'était sorti en deuxième partie de la qualification, donc pas possible de bénéficier du phénomène d'aspiration pour Vettel, et chez Mercedes on s'est entraîné. Je pense que Hamilton avait la pole entre ses mains, mais il s'est un peu loupé dans le premier secteur. C'est lui qui a bénéficié de l'aspiration de Valtteri Bottas dans le dernier secteur, et Valtteri a fait un tour tout simplement très constant, en fait très régulier tout au long du tour, les trois secteurs très très rapides, mais pas les meilleurs secteurs absolus. Donc voilà, c'est le potentiel maximisé chez Mercedes.
Bottas en pole position, ça n'est pas la première fois de la saison, mais la dernière fois ça ne lui avait pas souri, écoutez.
En Chine, j'ai perdu la course lors du départ, donc je vais éviter que l'histoire se répète. Je pense que la clé pour moi est de me concentrer sur ma propre performance. Le rythme est bon, ce sera vraiment serré avec Ferrari et Red Bull, mais c'est une course où il peut se passer n'importe quoi. Nous devons donc prendre les virages les uns après les autres, mais la première chose, c'est avant tout de voir le drapeau à damier si je veux l'emporter.
Valtteri Bottas, à ton micro, Lucas. Justement, comment tu l'as senti, comment tu l'as trouvé hier, Valtteri Bottas, à l'issue de la qualification quand il s'est présenté devant toi?
Plutôt sincère et très étonné. En effet, il ne pensait pas être capable de réaliser la pole position, surtout qu'il avait une position, en tout cas sur la piste, qui ne lui était pas favorable, puisque c'était Lewis Hamilton qui bénéficiait de l'aspiration. Alors oui, comme l'a dit Adrien, le Britannique s'est un petit peu loupé, c'est pour ça aussi qu'il était étonné. Et puis, on va le rappeler, cette qualification a pris beaucoup, beaucoup de retard hier, et les températures de la piste ont chuté, et c'est la raison pour laquelle Mercedes s'est montré plus à son aise que Ferrari. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'explique. Du côté de Toto Wolff, le patron de Mercedes. S'il n'y avait pas eu tous les événements, à savoir la sortie de piste de Kubica et la sortie de piste de Charles Leclerc au virage numéro 8, il a concédé qu'il aurait été très très compliqué, voire quasiment impossible d'aller chercher la pole position.
Jean-Luc, est-ce qu'il faut s'attendre dès le premier virage de ce Grand Prix à un duel entre Hamilton et Bottas? Est-ce qu'on peut s'attendre à voir le Britannique tenter très vite une attaque pour reprendre la première position?
Ah, il va essayer, bien sûr. D'ailleurs, la course de Formule 2 qui se déroule à l'instant, c'est ce qui s'est produit à un moment du départ. L'homme qui était aux côtés du poleman sur la grille est parvenu à le devancer, en tout cas fugitivement. Et là, on est sous régime de safety car. D'ailleurs, je donne des nouvelles parce que ça peut également servir pour la Formule 1. C'est Giuliano Alesi qui a tenté une très belle attaque, malheureusement, qui s'est soldée par un contact. Donc, on est sous un long régime de safety car. Alors oui, réponse à ta question, bien sûr, à la moindre petite faute ou la moindre erreur de Bottas, il est évident que Hamilton va placer une attaque dont il a le secret. Il est impérial en course, et Bottas le rappelait lors du dernier Grand Prix. La pole, c'est déjà une partie du travail de fait, à condition d'être encore devant. Allez, on va dire à l'issue du deuxième virage. Au troisième, ça ira peut-être un peu mieux.
Écoutez justement Lewis Hamilton, le pilote Mercedes, juste derrière donc Valtteri Bottas sur la grille, et qui lui aussi se satisfait de la belle performance des flèches d'argent.
C'est vraiment super pour l'équipe. Vous savez, nous avons fait du très bon travail. On ne s'attendait pas à être plus rapide que Ferrari. Ils ont été devant tout le week-end, particulièrement en troisième séance d'essai libre. Ils ont activé une cartographie motrice un peu plus agressive. Ils étaient vraiment rapides et les qualifications s'annonçaient serrées. Cela aurait peut-être été plus difficile de battre Leclerc, mais la façon dont les choses se sont déroulées nous ont rendu la tâche plus facile.
On les croit, Adrien, les pilotes Mercedes, quand ils s'émerveillent comme ça des performances de leur voiture en disant mon Dieu, quelle surprise qu'on soit devant, c'est incroyable.
Oui, encore une fois, oui et non, parce que tout simplement, je pense qu'il y en avait un peu plus qu'en essai libre dans la Mercedes, et comme l'a dit Lucas, la température un peu plus basse les a sûrement aidés, mais je pense aussi que c'est aussi une map moteur en qualification. À chaque fois, ils en ont un peu dans la poche et ils en rajoutent en qualif, donc c'était une bonne performance de la part des Mercedes, une très bonne performance, encore une fois maximiser le potentiel, mais rappelons que avec Charles Leclerc qui sort en Q2 chez Ferrari, on a amputé une partie des chances de la Scuderia, et en plus de ça, c'est un circuit où l'aspiration paye beaucoup, et on aurait pu s'entraider entre Vettel et Charles Leclerc, donc c'était déjà compliqué à partir de la Q2 pour Ferrari, et au final, comme depuis le début de la saison, c'est Mercedes qui fait le meilleur choix du début à la fin.
Et oui, et on a l'impression, Jean-Luc, que vraiment l'histoire se répète depuis le premier Grand Prix de la saison. C'est-à-dire, t'as deux écuries qui sont a priori très proches l'une de l'autre, sauf que t'en as une Ferrari qui commet à chaque fois une erreur et une Mercedes qui à chaque fois l'exploite.
Et voilà, tu as bien résumé. Effectivement, en termes de performance, on a bien compris que les Ferrari, et effectivement la température de la piste peut être une explication. C'est vrai que traditionnellement les Ferrari exploitent mieux les pneumatiques quand la piste est plus chaude, mais je crois surtout qu'on se prend les pieds malheureusement dans le tapis chez Ferrari, et là, une nouvelle fois, Charles Leclerc l'a honnêtement reconnu, et Hamilton l'a dit, hein, à travers les propos qu'on vient d'entendre, Leclerc aurait été capable, sans forfanterie, de décrocher la pole, et malheureusement Vettel n'en a pas été capable avec avec le potentiel dont il disposait une nouvelle fois. Alors il n'est pas massacré, il n'est pas battu, mais il est un peu plus de 3 dixièmes de Bottas. Le potentiel de la Ferrari aurait dû lui permettre d'être devant. Donc comme le disait aussi Adrien, c'est vrai qu'ils ont un bouton magique, enfin je ne sais pas, en tout cas une surmotivation. Ils mettent tout ensemble au bon moment chez Mercedes et c'est bien pour ça qu'ils arrivent à ce résultat extraordinaire. Et attention en course, hein, parce que traditionnellement, effectivement, les Mercedes sont globalement plus performantes en course qu'elles ne le sont en qualif, c'est tout dire. Et surtout, on fait pas d'erreur chez Mercedes.
Mais c'est aussi assez amusant de voir comment à chaque fois Hamilton encense Charles Leclerc et on comprend aussi quelques pics hein, lancés à Sébastien Vettel et une guerre un peu psychologique hein, envers l'Allemand. Je pense pas que ça soit totalement gratuit les éloges envers Charles.
Oui. Lucas, avant qu'on entende Charles Leclerc, ou plutôt qu'on l'écoute même, soyons fous, est-ce que tu peux nous rappeler ce qui lui est arrivé précisément en Q2 pour le voir si loin sur la grille tout à l'heure?
C'est très simple, c'est-à-dire que Ferrari a choisi une stratégie décalée par rapport notamment à Mercedes et à l'ensemble du plateau, à savoir essayer de se qualifier en Q2 avec les pneumatiques médium, donc les pneumatiques pas les plus dures ni les plus tendres mais intermédiaires, et pour avoir une stratégie décalée. Et malheureusement, alors que Charles Leclerc avait réalisé le sixième temps de cette Q2 et semblait à l'abri pour passer en Q3 et aller disputer la pole, il est sorti lors de son deuxième tour au virage numéro 8. Il est arrivé un petit peu trop vite, il a bloqué sa roue avant gauche et il est venu s'encastrer dans les Tech Pro. Alors malheureusement, forcément, séance de qualification terminée. Heureusement pour lui, il n'y a pas eu besoin de changer d'élément sur sa monoplace, donc il ne sera pas pénalisé et donc il s'élancera tout à l'heure 8e au jeu des pénalités. On y reviendra puisque la grille finalement a beaucoup bougé. Voilà, c'est une petite erreur de la part de Charles Leclerc, mais voilà, qui malheureusement cause de lourdes conséquences.
Charles Leclerc contrit et sincère hier après les qualifications au micro de nos confrères de Canal+.
Oh, j'étais stupide, c'est tout. Enfin, j'ai pas fait le job aujourd'hui. Je suis très déçu de moi. Je le mérite complètement. Mettre en Q2, j'ai fait une bêtise. Je pense que c'est très clair de façon à la télé dans tous les cas. Il y a vraiment pas d'excuse. Aujourd'hui, c'est moi qui ai été complètement bête. J'espère, enfin, en tout cas, je vais tout faire pour apprendre de ça et revenir plus fort et faire une bonne course demain pour essayer de pas d'oublier, parce que j'oublierai pas celle-là, parce qu'elle fait ça fait mal. Mais en tout cas, de revenir plus fort pour les prochaines courses.
Adrien, incroyable la lucidité de Charles Leclerc. Mais en même temps, que pouvait-il dire d'autre?
Non, mais c'est mature, c'est lucide. Il sait très bien que tout le monde a vu son erreur à la télévision. Donc c'est la meilleure des choses à faire, de tirer les enseignements. Il a le discours parfait. Il va pas oublier cette erreur parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Mais il va aussi la mettre assez vite derrière lui et il a à cœur de se rattraper aujourd'hui en course. Et je pense que la nuit pour lui a été très longue. Quand on fait une erreur comme ça, on sait que c'est son propre chef et c'est une erreur facile à ne pas commettre. Et ben, on a vite envie de reprendre le volant et de se rattraper.
D'autant plus que il y a des circuits, il y a des grands prix, Jean-Luc, où partir loin sur la grille est quasiment rédhibitoire. On sait que ça va être très difficile de remonter. Or, à Bakou, on l'a vu surtout les deux dernières années, tout est possible et même le pire.
Ben oui, ou le meilleur, en l'occurrence, voilà. pour Charles, bien sûr, comme l'évoquait Lucas il y a un instant, avec, et on va y venir évidemment dans l'autre partie, les déclassements successifs pour raisons diverses de Giovinazzi et Raikkonen notamment. Ben Charles récupère des positions, il va être 8e, c'est pas si mal, comme la Ferrari est extrêmement rapide, on l'a vu, et là apparemment il fait beau et chaud sur le tracé, elle sera au maximum de son potentiel. Maintenant, faudra éviter les contacts, notamment dans les deux premiers tours, mais je pense qu'après, Charles est tout à fait capable de remonter ses adversaires. Lando Norris, Daniil Kvyat, Sergio Perez qui sont devant, ils devraient n'en faire qu'une bouchée. Et donc je pense se retrouver rapidement dans le sillage de Verstappen pour la 4e position et viser au moins le podium. Voilà.
Écoutez ce que dit Sébastien Vettel des mésaventures de son équipier de la Scuderia, Charles Leclerc. Il est au micro de Lucas.
Je me suis rendu compte qu'il ne pourrait pas repartir et que la qualification était terminée pour lui. Au final, nous sommes une équipe et tout le monde travaille extrêmement dur. Peu importe de quel côté du garage vous êtes, c'est vraiment dommage d'avoir perdu une de nos voitures. Mais à partir de ce moment, je me suis concentré sur moi-même et j'ai donné le meilleur que je pouvais. Je voulais placer la voiture en première ligne, mais nous n'avons pas été assez rapides.
C'était quand même une belle occasion pour Sébastien Vettel de fermer un peu, de rabattre un peu le caquet de son équipier. S'il avait là signé la pole, Sébastien Vettel, il aurait regagné beaucoup de légitimité, non Adrien?
Ouais, le problème c'est qu'il avait besoin de lui dans cette qualification. Et je crois que la stratégie c'était d'avoir une aspiration de son coéquipier. C'est quasiment 4-5 dixièmes dans le dernier secteur l'aspiration, donc c'est assez phénoménal. On a cette période de pleine charge qui dure 2,2 km, la ligne droite en elle-même fait seulement 1,2 km, mais 1 km avant dans CS on est à fond absolu, donc voilà, c'est l'aspiration qui joue un gros rôle et les chances de la Scuderia à partir du moment où Charles est sorti en Q2 étaient altérées.
On va continuer d'évoquer évidemment ce Grand Prix d'Azerbaïdjan avec un homme qui a connu 162 Grands Prix de Formule 1, c'était entre 1978 et 1989 pour 22 podiums et 7 victoires. Bonjour René Arnoux.
Bonjour à tous.
Et merci d'être avec nous en direct sur RMC dans Motors, Jean-Luc.
Oui, salut René, merci beaucoup d'être avec nous. On peut rajouter même tes 18 pole positions, hein, ça fait un sacré.
Exact.
Bah oui. Et je sais
en plus c'était une épreuve que j'aimais beaucoup. À l'époque moteur turbo, tout cale de qualif, pneu de qualif, tout, on avait tout vraiment pour avoir un rendement optimum.
Absolument. Alors tu es à l'atelier Renault aujourd'hui pour fêter les 40 ans de la première victoire. On en parlera certainement avec Jean-Pierre Jabou qui doit être à tes côtés également. Mais
oui,
avec toi, je voulais évoquer ce duel formidable que tout le monde garde en mémoire. Et tu me racontais cette histoire. Même des jeunes gens ont ça sur la Rai-Faud, hein, pour regarder ta bagarre avec Gilles Villeneuve sur ce fameux tracé de Dijon en 79.
Tout à fait, oui. Je suis un peu émerveillé encore. Tant mieux pour moi, mais je trouve ça un peu dommage pour la F1 moderne. C'est 40 ans après, on en parle encore. Comme j'ai l'impression que il y a toujours eu cette même constance après, comme et maintenant, j'ai l'impression de sortir de Dijon une semaine après et que les gens m'arrêtent dans la rue et pour me parler de Dijon 79. Donc c'est fabuleux. Je pense que justement ce jour-là, on a dû quand même passer certains seuils et puis marquer beaucoup de gens.
Écoute, c'est génial parce que effectivement, c'était des bagarres incroyables. À l'époque, il y avait pas de sanctions. Hein. On peut dire que là, on vous aurait retiré à tous les deux votre licence pour au moins 2 ans.
Ouais, je pense que d'abord, on nous aurait chopé notre licence, on nous aurait mis en prison pendant 2 ans, puis après, au bout de 2 ans, on nous aurait fait sortir et on nous aurait demandé quelques explications. Mais au bout de 2 ans, donc c'est vrai que maintenant, quand on voit justement. Investigation, qu'est-ce qui s'est passé, qui a touché qui, il prend 10 secondes de pénalité en passant par les stands, donc ça a beaucoup changé.
Quel regard tu portes justement sur déjà la F1 aujourd'hui et puis l'arrivée de Charles Leclerc, on va en parler, la pépite, hein, bon, qui a pêché un petit peu par excès de confiance hier, mais quel talent, c'est un diamant brut, en plus honnêtement il a tout reconnu comme tu le faisais à l'époque d'ailleurs.
Oui, mais je trouve ça très bien. Quand on fait une connerie, une erreur, on la paye tout de suite, bien entendu, et puis ça sert à rien de la masquer. Et c'est ce qu'il a fait, bravo. Mais on sait que c'est quelqu'un de très équilibré, de très honnête, et puis très fort sur le plan du pilotage. Hein. Tous les championnats qu'il a fait, il les a gagnés. Donc, moi, je lui souhaite de gagner rapidement la première, parce que dès qu'il va l'avoir gagnée, ça va faire un effet détonateur, où justement, c'est toujours un peu difficile, délicat de gagner la première, mais ça va lui donner justement une sérénité qu'il a déjà, mais ça va lui augmenter et je pense qu'il peut jouer aussi le championnat dès cette année, moi.
Alors René, on va en venir à Renault. Il y avait déjà des consignes d'équipe à l'époque, il y en a toujours eu en Formule 1, il faut être clair, depuis le tout début. D'ailleurs, Fangio lui-même a gagné plusieurs titres comme ça. Tu les as pas souvent respectés dans le bon sens du terme, notamment à certains Grand Prix France, Paul Ricard, si je me souviens bien, pour gagner
oui,
les courses.
Tout à fait. Mais bon, moi c'est ce que j'ai dit, le sport c'est le sport, et un contrat c'est un contrat. Mais disons que en 82, quand je gagne au Paul Ricard, je suis à égalité de contrat. Il n'y a pas de numéro 1, il n'y a pas de numéro 2. On est à égalité parfaite. Donc j'ai le droit de gagner sans aucun problème. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai joué ma place. On est au Grand Prix de France. C'est la veille de mon anniversaire. Je suis né le 4 et je crois que c'était le 1er. Et
oui.
Donc bon, ça c'est un petit clin d'œil supplémentaire.
Tu voulais te
l'offrir, mais en F1, quand on peut gagner, on va pas laisser la place à l'autre, même au sein de la même équipe, ça c'est certain. Et comme je dis, j'étais Grand Prix de France, on est à peu près à mi-saison, j'ai des points au championnat, je peux gagner le championnat, donc bien entendu, c'est hors question. On est formaté pour gagner, c'est-à-dire qu'on on fait du kart, faut gagner, on fait une école de pilotage, faut la gagner, on commence en Formule Renault comme moi, et puis en Super Renault, puis en F2, il faut gagner, sinon on monte pas le dernier échelon, donc c'est pas au moment où on arrive à F1, en F1 avec du talent, et on m'a choisi en tant que pilote, et on m'a mis à égalité avec le pilote qui est au sein de la même équipe que moi, donc bien entendu, il est hors question que je m'incline à ce moment-là de la saison. Bien sûr, c'était trop tôt.
On se retrouve
à mi-saison, à fin de saison, au dernier Grand Prix, que je peux aider le constructeur pour qu'il me fait confiance et que je peux plus gagner le championnat. Bien entendu, je vais le laisser faire. Je vais tout faire pour qu'il puisse gagner le championnat, mais pas du tout à cette occasion-là où justement j'avais encore toutes mes chances de pouvoir finir à de très bonnes positions au niveau mondial.
Allez, fais-nous rêver, René, parle-nous du pilotage de ces machines à moteur turbo. À l'époque, il n'y avait pas de récupération d'énergie. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire, ces moteurs
mais
turbo.
Le plus dur à récupérer, c'était notre énergie à nous. Parce que ça nous consommait une énergie de fou. Excellent. Dans la mesure où, avec les temps de réponse, les délais qu'on avait avec les moteurs turbo, il fallait tout calculer et anticiper. Donc, ce qui faisait que, bon, quand on allait à Spa ou à Monza, c'était assez facile, puisque, au contraire, ces moteurs très puissants nous donnaient même un avantage. Mais quand on se retrouvait à Zolder ou à Monaco, là, c'était carrément... on avait mouillé la combinaison avant de s'installer derrière le volant, hein, ça c'est certain. Mais bon, c'était l'époque, c'était quand même des voitures qui étaient... quand j'étais chez Renault de 79 à fin 82, c'était des voitures quand même exceptionnelles, avec des difficultés de conduite.
Merci beaucoup.
C'est moi qu'on puisse dire.
Merci beaucoup, René Arnoux, d'avoir été avec nous. Vous allez regarder le Grand Prix d'Azerbaïdjan quand même, vous l'écoutez avec nous quand même?
Ah non, je vais quand même l'écouter, le regarder, puis voir un peu ce qui va se passer. Je pense que Renault est pas très bien placé, malheureusement, les qualifs se sont pas bien passés. Donc, je vais voir un peu ce que nos... j'allais dire notre français a fait, mais c'est vrai que le client n'est pas français.
Il est monégasque. Merci René, en tout cas. À très bientôt sur RMC. On rappelle qu'on fêtera donc le 1er juillet prochain. On l'a fait avec un petit peu d'avance. Le quarantenaire de la première victoire de Renault en Formule 1. C'était en 1979 à Dijon. 13h26 sur RMC. Dans un instant, Motors revient. On s'intéresse aux qualifications de nos Français à leur déboire, puisque ça a été très compliqué jusqu'à présent ce week-end pour Pierre Gasly, pour Romain Grosjean et pour l'écurie Renault. À tout de suite sur RMC.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean-Luc Roy.
13h27 sur RMC, merci d'être avec nous. Motors en direct avec Jean-Luc Roy, Adrien Tambay et avec Lucas Vinois en direct de Bakou en Azerbaïdjan, où s'élancera dans 42 minutes précisément maintenant le 4e Grand Prix de cette saison. Ça sera à vivre, vous le savez, en direct en intégralité sur RMC. Une bonne nouvelle pour vous ce week-end, on vous offre vos places pour le Grand Prix de France moto au Mans du 17 au 19 mai prochain. Vous profitez de la fan zone, des concerts, de tous les shows mécaniques, vos places en tribune pour ne rien louper de 3 jours de Grand Prix de France moto au Mans. Pour remporter vos places, c'est facile, vous envoyez Motors, M-O-T-O-R-S, au 732-16. Motors au 732-16. Bonne chance à tous. On revient à la F1, on en arrive à nos Français.
RMC Motors, le French's Corner.
Et on fait pas les malins. On fait pas les malins ce midi. Lucas Vinois, toi, t'as dû te faire chambrer dans le paddock à Bakou. Parce que pour l'instant, c'est pas Jojo pour Romain Grosjean et pour Pierre Gasly, je crois qu'on peut le dire comme ça.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Malheureusement, c'est le pire Grand Prix depuis le début de la saison, puis même peut-être le pire Grand Prix depuis longtemps, parce que là, franchement, les Français, malheureusement, se sont accordés et ont tous eu des résultats un petit peu décevants. La Haas ne fonctionne pas bien, en tout cas celle de Romain Grosjean. Il ne se sentait pas bien à l'intérieur de la monoplace, a un mauvais feeling, comme il a dit. Il s'élancera 14e. Alors ça vient de changer. Il y a vraiment la grille ne cesse d'être modifiée à mesure que les minutes passent. Donc normalement, il devrait partir 14e. 14e et Pierre Gasly lui dans tous les cas de toute façon partira depuis la voie des stands et derrière Robert Kubica en dernière position puisque il a été disqualifié tout simplement de la séance de qualification hier pour un débit d'essence trop important. Donc voilà, Pierre Gasly en tout cas qui partira de la voie des stands et derrière Robert Kubica et peut-être qu'il aura devant lui Kimi Raikkonen puisque Kimi Raikkonen lui a eu un problème avec son aileron, un aileron non conforme qu'il a été disqualifié lui aussi de la qualification. Il devait partir de la voie des stands. Finalement, Alfa Romeo a posé une réclamation. La FIA l'a autorisé dans un premier temps à partir depuis le fond de grille. Et puis finalement, on vient de recevoir une autre information. Il devrait partir finalement de la voie des stands. Donc d'ici quelques minutes, ça pourra encore changer. On vous tiendra ça au courant.
Bien sûr, bien sûr.
Une grille qui n'est pas facile à comprendre.
Bien sûr. Adrien, est-ce que je suis un grand naïf, pour le dire poliment, si je te dis que c'est peut-être pas plus mal finalement de partir de la voie des stands dans un Grand Prix où il y a souvent beaucoup de grabuges, notamment au premier virage, peut-être on s'éloigne un petit peu du paquet, ou est-ce que
ouais, c'est bête. C'est toujours mieux de partir devant, ça c'est clair, mais c'est peut-être le circuit où effectivement on peut se mettre en dehors des problèmes et le deuxième virage, le premier tour, c'est souvent assez dangereux à bas coût. Maintenant non, c'est sûr qu'il vaut mieux partir devant avec son coéquipier et surtout devancer Max Verstappen. C'est l'objectif par exemple pour Pierre Gasly. Malheureusement, c'est un week-end qui s'enchaîne pas bien pour l'instant. Il y avait une progression depuis le début de la saison pour Pierre, avec en Chine le meilleur tour en course et la sixième place, les points. On va espérer qu'aujourd'hui il ait de la réussite, parce qu'il en faudra pour revenir aux avant-postes, de la réussite dans les événements de course, et espérer que ça tape un peu devant pour lui et qu'il puisse être en dehors des problèmes pour remonter.
Parce que Jean-Luc, on le dit, on le répète, c'est une course où il se passe beaucoup de choses, où il y a des rebondissements sur ce circuit urbain de Bakou et où on peut, si on s'en tire bien, avec en effet un peu de réussite, profiter des malheurs des autres.
Bien sûr, encore une fois, je fais référence à la course de Formule 2 qui va enfin se terminer après plus de la moitié de son déroulement sous régime de drapeau jaune, parce qu'il y a eu énormément de sorties, énormément d'accrochages, et on l'a déjà signalé hier, les commissaires malheureusement sont loin d'être ceux de Monaco, donc ça prend un temps fou à chaque fois pour extraire la monoplace. Donc oui, il y aura des incidents, c'est une évidence absolue, voire des accidents, on ne les souhaite jamais, mais il y en aura. Donc c'est évident qu'il va falloir être opportuniste. C'est vrai, je te rejoins sur un point, c'est qu'évidemment, en partant dernier depuis les stands, on risque moins de s'accrocher au milieu du paquet, ça c'est sûr. Donc effectivement, certains des adversaires peuvent payer très cher, mais le pauvre Pierre Gasly, j'en viens au règlement, et tu sais ce que je vais dire une nouvelle fois, c'est incompréhensible. Écoute, il a la triple peine, lui, parce qu'il avait déjà changé de boîte de vitesse, donc sur sa Red Bull à moteur Honda. Donc il prenait 5 places de pénalité. Mais entre-temps, il n'a pas satisfait à la pesée à l'issue de la deuxième séance d'essai libre. Donc il partait des stands, et doublement parce qu'il est encore frappé pour cette histoire de débit de carburant qu'évoquait Lucas il y a un instant. Enfin, la triple peine, comme je le disais, mais il va se retrouver avec d'autres qui n'ont qu'une simple peine, c'est-à-dire effectivement, comme on l'a entendu aussi, Raikkonen, après de multiples changements dans l'interprétation, etc. Tout ça est bien trop compliqué. Et ça y est, dès le quatrième Grand Prix cette saison, on commence à lire la grille de départ à l'envers pour savoir qui est frappé par des pénalités.
Je vais aller un peu plus loin même, Jean-Luc. C'est quadruple peine pour Pierre Gasly, bien que Lucas, le dernier élément, ne soit pas vraiment de son fait. Parce que ce qui est compliqué, c'est que Daniil Kvyat, le russe de l'écurie Toro Rosso, réussit lui une qualification magnifique et s'élancera tout à l'heure sixième. Or, on sait que le baquet de Pierre Gasly, il peut justement être menacé par Kvyat. Donc c'est aussi là, Lucas, une mauvaise opération.
Oui, bien sûr, c'est par Kvyat et par Alexander Albon. C'est vrai que Daniil Kvyat avait été viré plusieurs fois par Red Bull. Il est revenu par la fenêtre et il se montre plutôt performant, et notamment aussi Alexander Albon qui quand même depuis le début de saison est vraiment vraiment impressionnant. C'était son troisième Grand Prix en Formule 1 en Chine. Il n'avait jamais conduit une Formule 1 avant les essais de Barcelone. En Chine, il part depuis la voie des stands et il marque le point de la 10e place. Donc oui, d'un côté Pierre Gasly ne va pas forcément très bien, et en plus de ça, les pilotes Toro Rosso se montrent plutôt à leur avantage. Donc ça fait deux choses qui se combinent plutôt mal, en tout cas pour le français. Mais un élément dont je voulais vous faire part et que moi m'a paru vraiment très très étonnant, c'est que pendant la journée du jeudi, la journée des médias, vous avez des petits triangles qui sont posés sur les tables pour savoir où est-ce que chaque pilote va être positionné pendant la session de médias. Et Max Verstappen a son triangle avec marqué Red Bull Racing, Media Session, et puis Max Verstappen en dessous. Et bien, Pierre Gasly n'a par exemple pas son petit triangle. Donc je sais pas pourquoi chez Red Bull tout se passe comme ça, mais on a l'impression que tout tout, absolument tout, va à l'encontre de Pierre Gasly et qu'on ne fait rien du tout pour le mettre en confiance. Il n'y a pas non plus de session média pour la presse écrite avec Pierre Gasly, puisqu'on veut soi-disant le protéger. Franchement, je ne comprends pas la politique de Red Bull.
Ouais, et le diable est dans les détails, et effectivement, ces petits signes imperceptibles.
Faut pas lui parler de ça à Pierre, hein. Faut pas lui poser la question pourquoi t'as pas de triangle, parce que là, la paranoïa, ça doit commencer.
Bien sûr, mais ces
situations-là pour un pilote sont extrêmement difficiles, parce qu'on ne cesse de se poser des questions. La Formule 1 est un sport mental avant tout, et on voit hier en qualification, ça joue à tellement peu de choses, on peut faire une erreur, mais on doit être tellement dans le meilleur état psychologique possible qu'aujourd'hui, la situation pour Pierre, elle est on ne peut plus compliquée.
Surtout quand on sait à quel point l'écurie Red Bull a pour réputation d'être impitoyable avec celui qui commettrait la moindre erreur. Comment Gasly doit-il gérer cette situation, à ton avis? Quelle attitude il doit adopter mentalement pour essayer de se recentrer sur son pilotage uniquement?
Arriver tant bien mal à se focaliser sur son pilotage, sur son boulot avec les ingénieurs, à trouver les meilleures solutions avec sa voiture, en essayant d'oublier ce qui se passe à l'extérieur. Souvent c'est l'entourage qui a un vrai rôle dans ces situations là arriver à faire oublier un peu ça, arriver à avoir de la décontraction, c'est difficile dans ces moments là mais bon il en a vécu aussi des déboires dans sa carrière. C'est pas le premier, certes c'est le premier en vrai déboire en Formule 1, là, un début de saison compliquée, mais il va y arriver, Pierre. Il faudrait aujourd'hui qu'il connaisse une belle course avec des rebondissements pour tout de suite avoir un regain de confiance, parce que c'est le plus important en Formule 1, c'est la confiance.
Comme disait Jean-Luc à l'époque où j'avais la chance d'être sur les circuits, j'entends derrière toi, Lucas, comme une sorte de bourdonnement. Que se passe-t-il? Est-ce qu'on aurait lâché les monoplaces?
Oui, c'est ça. D'ailleurs, petite erreur de Lewis Hamilton qui a tiré tout droit dans une des nombreuses échappatoires de ce circuit. Donc,
vous voyez, même
oui, bien sûr, évidemment. Mais pour revenir un tout petit peu à Pierre Gasly, il y a aussi un des éléments. Je sais pas si c'est de coutume de faire ça, mais l'un des frères de Pierre Gasly était présent à Bahreïn et il a été interdit de garage. Pierre Gasly, lorsqu'il a demandé à Helmut Marko si son frère pouvait venir dans le garage, il a été interdit. Donc, j'ai l'impression aussi qu'il y a autour de Pierre Gasly, on essaye de gérer la communication, notamment avec les médias français. On essaye de gérer la famille, mais on n'essaye pas de gérer les déclarations d'Adrian Newey, d'Helmut Marko et aussi de Christian Horner, qui franchement ne le mettent pas en confiance. Donc, je n'arrive pas à lire et à comprendre la cohérence de tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'écurie autrichienne.
Ça a toujours été compliqué, hein, chez Red Bull, avec les jeunes pilotes, et on les prend très vite, mais on les jette aussi très vite. Donc, je comprends que tu ne comprennes pas leur politique, parce que personnellement j'ai toujours eu du mal, hein. J'ai eu plein de collègues et d'amis qui ont été chez Red Bull et qui se sont fait jeter du jour au lendemain pour aucune raison, ou en tout cas sur des choses infondées, en fait, sur des manques de résultats, mais on leur a pas laissé le temps de progresser pendant une saison dans les jeunes catégories, etc. Donc honnêtement c'est une maison compliquée.
Pour terminer sur
pas des potes,
hein. Oui, exactement, ouais. Pour terminer justement, Jean-Luc, sur Pierre Gasly, avant d'en arriver à Romain Grosjean, oui. C'est une accumulation de petits signes quand même qui vont un peu dans le même sens.
Il savait qu'il se trouverait sur le grill, c'est une évidence, c'est exposé. On sait très bien, et c'est pas du tout lui faire offense, encore une fois, que de dire qu'il n'aurait pas dû se retrouver là, puisqu'on tablait vraiment sur une reconduction du contrat de Daniel Ricciardo, qui a choisi donc de partir chez Renault, précisément parce qu'il n'était plus désiré, il ne se sentait plus désiré, en tout cas pas au niveau de Verstappen, qui est le chouchou de la maison, évidemment, et dont on veut faire le futur champion du monde, le futur Vettel, en un mot comme en mille. Et Adrien évoquait les jeunes pilotes qui en ont fait les frais, ils sont très très nombreux. On commence évidemment par Sébastien Bourdais, qui était aux côtés de Vettel et qu'on a éjecté d'une manière extrêmement cavalière. Jaime Alguersari, le jeune espagnol qui l'a remplacé, qui a été viré lui aussi comme un malpropre. Quant au pauvre Kvyat, on en parlait tout à l'heure, il a été viré. Pardon?
Buemi aussi.
Ouais. Oui, la liste est longue.
Oui, on n'a pas le temps.
Non, je voulais pas être exhaustif, je voulais en citer quelques-uns juste. Et effectivement, là, on a bien compris que, malheureusement, c'est l'inverse, à mon sens, de ce qu'il faudrait faire. Maintenant, on va te dire, oui, mais le résultat est là, on a eu Vettel 4 fois champion du monde. Écoute, on va attendre de savoir s'ils sont capables d'en sortir un autre, hein, l'occurrence Verstappen. Ça, c'est déjà la première échéance. La deuxième, après tout, ils font ce qu'ils veulent. Ce sont les fonds, effectivement, de ce vendeur de boissons gazeuses internationales. Il fait ce qu'il veut avec. Dietrich Mateschitz, le grand patron, investit énormément en Formule 1 et pas qu'en Formule 1, d'ailleurs, dans plein de sports mécaniques. Mmh. Après, il décide du jour au lendemain, conseillé par son âme d'année, on l'a dit, et qui fêtait son anniversaire, Helmut Marko, qui a été, il faut quand même le rappeler, pilote de Formule 1 et qui a perdu un œil. Ouais. C'était sur le circuit de Charade en 1972. Donc, il faut quand même reconnaître son... Maintenant, ils sont pas tendres du tout. Ils sont même extrêmement rugueux. Et moi, je trouve ça limite indécent parfois, notamment par rapport à Pierre Gasly, je le dis aujourd'hui.
Pierre Gasly, qui, on le rappelle, s'élancera donc de la voie des stands. Son équipier, Max Verstappen, sera lui quatrième. On rappelle le trio de tête quand même, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. Bottas, Hamilton, Vettel, départ de ce Grand Prix dans une demi-heure maintenant, à 14h10. Pierre Gasly, il partira de la voie des stands. Au classement général provisoire du championnat du monde, il est sixième avec 13 points. Notre autre Français, lui, court toujours après son premier point. Il s'agit de Romain Grosjean, Jean-Luc, qui partira 15e et dont le début de saison, décidément, est très compliqué.
Oui, écoute, on a du mal à s'exprimer là, parce qu'effectivement, au-delà des problèmes que rencontre Romain, exactement comme l'an dernier d'ailleurs, où il a mis très très longtemps avant de sortir de cette zone de turbulence, il est largement dominé par son équipier Magnussen, et ça c'est un gros souci, parce qu'on le dit toujours, le premier adversaire, eh bien, c'est le partenaire dans la même équipe, il dispose du même matériel, et là Romain ne parvient pas à s'y faire. Alors là aussi, il va partir, alors du coup, par le jeu des déclassements, il est en train de remonter sur la grille, c'est ça, il vaut mieux faire de l'humour, hein. Je crois qu'il partira finalement 14e, à moins qu'il y ait une nouvelle qui soit tombée dans les 5 secondes, Lucas, donc 14e.
Non, c'est ça.
Voilà, ça devrait être ça, si mes calculs sont bons aussi. Donc, il sera en plein milieu du paquet. On sait que ça ne va pas... On rappelle, je sais qu'on va me dire que je suis cruel, mais l'an dernier, il s'était quand même mis dans le mur sous régime de safety car en chauffant ses pneus, après avoir prétendu qu'on l'avait touché. Bon, je sais, on va me dire je suis cruel, mais c'est la réalité. Donc, il faut que Romain se reprenne. Et c'est urgent, là aussi, parce que je pense que Haas est extrêmement patient.
Le premier qui te traite de cruel, tu nous l'envoies. Hein. Et nous, on lui fera un sort.
Oui, non, mais ça ne me jette pas, tu sais. Je crois qu'on est là pour ça, on a l'habitude de dire ce qu'on pense. Et quand il fait une très belle course,
ce sont des faits, Jean-Luc, t'es pas cruel, ce sont des faits, et c'est une saison compliquée, une première moitié de saison compliquée pour Romain l'année dernière. Il a bien redressé la barre, il a réussi à rattraper la confiance de Gerhard Steiner et de Haas. Il y a peu de gens qui ont une deuxième chance en Formule 1, et lui, il en a eu pas mal des chances, donc là il va falloir élever son niveau de jeu, c'est sûr.
Pierre Gasly qui partira de la voie des cendres, Romain Grosjean qui partira donc 14e, même s'il a signé le 15e temps des qualifications. Et puis j'en conclus le Frenchies Corner avec un mot de Renault. Ça ne s'arrange pas non plus pour notre écurie française, puisque Daniel Ricciardo s'élancera en 11e position et Nico Hülkenberg 16e. Je demande quand même confirmation, Lucas, puisque la grille a dû changer par rapport à ce que j'ai.
Je crois que c'est 10e. Alors voilà. Moi j'ai 10e pour Ricciardo et 15e pour Hülkenberg.
Parfait. Et ben je vous fais confiance, voilà. Messieurs.
Mais c'est de la loterie, hein, ça va changer.
De toute façon, Lucas, tu restes avec nous, puisque d'ici une dizaine de minutes, on rappellera l'ensemble de cette grille de départ à la fin de Radio Paddock. Rapidement, les directs, notamment le rugby, 23e journée de Top 14. Toulon UBB, Florent Germain.
Ça roule pour le RCT qui a mis un quatrième essai, 24-10 pour les Toulonnais. Ce quatrième essai est l'œuvre de Julian Savea après ceux de Nakosi Bastaro et Julien Horry contre un essai d'Alexandre Rouma en tout début de rencontre. 24 pour Toulon, 10 pour Bordeaux-Bègles à 28 minutes de la fin de cette rencontre.
La doyenne des classiques, Arnaud Souk. Enfin, la doyenne, c'est Liège-Bastogne, c'est pas Arnaud, hein.
Oui, merci. 130 km 500 encore à parcourir par les 8 hommes, pour les 8 hommes de tête. Tu m'as perturbé.
Oui.
Et c'est un petit peu le Frenchies Corner aussi, l'échappée, si je puis me permettre, puisqu'ils sont 3 les Français. Attends, je savais que tu allais aimer. Il y a notamment Lilian Calmejeune de la formation Direct Energy. On a également Julien Bernard pour Trek Segafredo. Il y a également Tobias Ludvigsson ou encore Andreas Pasqualon qui sont devant. 7 minutes 40 d'avance pour tous ces hommes, alors qu'il reste donc 130 km à parcourir encore.
Et on suivra évidemment cette course tout au long de l'après-midi dans l'Intégral Sport. 13h43 sur RMC, ne bougez pas, Motors revient tout de suite.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
13h45 sur RMC, bienvenue si vous nous rejoignez, Motors en direct avec Adrien Tambay, avec Jean Lecroix, avec Lucas Vinoy en direct de Bakou. On rappelle que dans moins d'une demi-heure maintenant, vous suivrez le Grand Prix d'Azerbaïdjan, quatrième manche du championnat du monde en direct sur RMC. Mais tout de suite, Radio Paddock.
RMC, Motors.
World champion, oh my god, come.
Radio Paddock.
On embrasse Benoît Boutron qui n'est pas avec nous ce week-end et on accueille Engie Loata qui est là. Salut Engie.
Salut Louis, salut à tous.
On commence NG avec le rallye d'Argentine.
Ouais, et deux pilotes qui ont été pénalisés, Chris Meek et Ott Tanak, qui seront pénalisés pour avoir pris un chemin illicite lors de la 11e spéciale. 10 secondes de pénalité chacun, et du coup, et ben forcément, ça fait les affaires de Sébastien Ogier qui remonte à la 3e place du général provisoire. Neuville est en tête devant Mikkelsen. La 16e spéciale commencera en début d'après-midi.
Jean-Luc, bonne affaire là pour Sébastien Ogier quand même.
Oui, bonne affaire. Bah, tu sais, comme toujours, la chance, il faut la provoquer. Alors, quand il a une machine qui est légèrement inférieure, c'était le cas au Tour de Corse. On le rappelle, où il avait terminé deuxième derrière, on va dire, son principal rival, hein, Thierry Neuville. On n'oubliera pas Ott Tanak, naturellement. Il est évident qu'il faut sauver les meubles. C'est ce que va faire Sébastien Ogier. Et ce que vont faire Sébastien Ogier et Julien Ingrassia. Je crois que le rallye a été s'est déroulé dans des conditions un peu difficiles, avec beaucoup d'eau, notamment par moment. Il ne dispose manifestement pas d'une machine aussi performante que la Hyundai, qui a l'air vraiment très très bonne. Et puis, et Thierry Neuville, quand il ne commet pas d'erreur, parce qu'il en commet, il est quasi intouchable. Effectivement, il est en projection là pour le titre de champion du monde, on le sait bien. Et ça va être un trio, hein, qui va se battre. On rappelle que les trois étaient dans un mouchoir de Porsche après la Corse, avec Neuville 82 points, Ogier 80 et Ott Tanak 77. Ça va être une bagarre formidable, je pense, jusqu'au terme de ce championnat.
Ouais, le fameux mouchoir de Porsche.
On l'a eu.
C'est vrai que Thierry Neuville, moi ce qui m'inquiète, c'est que cette année, comme tu le disais Jean-Luc, quand il est devant et qu'il ne fait pas d'erreur, il est quasi imbattable, mais cette année il en fait de moins en moins des erreurs et il arrive à être assez constant. Donc c'est peut-être l'année où ça sera le plus compliqué d'aller battre Thierry Neuville pour Seb, et en plus de ça la Hyundai a l'air très performante.
Et c'est intéressant justement de voir Jean-Luc à quel point il a réussi à faire sa mue, Thierry Neuville, et à être plus propre, à moins commettre d'erreurs justement.
Eh bien, il faut, hein, quand on veut être champion du monde, effectivement, je crois qu'il a appris de Sébastien Ogier. Il a vu que quand il disposait d'une machine moins performante que la sienne, et c'était le cas lors des deux dernières saisons de championnat du monde, puisque effectivement la Ford était un ton légèrement en dessous, mais on a su exploiter. Et puis c'est pour ça que ce rallye est du championnat du monde est formidable, parce que avec une machine légèrement inférieure, on parvient à être devant si on commet moins d'erreurs, qu'on est plus malin et qu'on est plus constant. Et je pense que Neuville et Gilles Soule ont appris beaucoup de leurs rivaux. Là, ils disposent vraisemblablement de la meilleure machine sur l'ensemble des terrains. Enfin, attention à la Toyota aussi d'Ott Tanak, hein, qui a l'air très très bien partout. Mais là, la balle est dans le camp de Neuville. Maintenant, comme on l'évoquait avec Adrien, s'il le fait pas cette année, je pense que de plus en plus, puis il va y avoir un syndrome, hein. Ouais. À force d'être deuxième au championnat du monde, ça devient difficile. S'il se fait encore tanner, tu me pardonnes l'expression, c'est volontaire, par Tanak ou par Ogier, ça va être difficile à vivre au sein de l'équipe Hyundai.
On poursuit Radio Paddock NJ avec de la formule électrique.
Ouais, la formule électrique, c'était hier à Paris, on l'a vu, hein, sous la pluie. Il y a eu du plantage, il y a eu un vainqueur, le néerlandais Robin Frims. Oui, ah, je savais
oui,
qu'il allait. Je savais qu'il allait être compliqué, j'en ai même parlé avant l'émission. Robin Frims.
C'est pas ça non plus.
Aidez-moi pas sur tous les.
De toute façon, on le connaît pas, on va pas se mentir.
Le mouchoir de Porsche, ça va.
Robin Frintz.
Prince. On ignore le J.
Bah, oui. C'est compliqué de dire toutes les consonnes.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment faut faire des choix. Bon, bref, Robin Frintz, oui. Il a pris la tête du général. Et alors, il faut savoir que c'est le 8e vainqueur en 8 courses depuis le début de la saison.
C'est bien.
Donc, c'est particulièrement indécis, cette saison de Formule E. Jean-Éric Vergne, le pilote français, a terminé 6e de la course. Et il était plutôt, écoutez-le, heureux de sa performance.
Plutôt satisfait de ma course, c'était en plus extrêmement difficile avec la pluie, c'était des conditions dantesques où on n'y voyait absolument rien. Je marque des bons points pour le championnat, c'était important évidemment de marquer des points et c'est chose faite. Maintenant on va se concentrer sur les prochaines courses, essayer de marquer de plus gros points sur les prochaines. Mais voilà, comme je l'ai dit et comme je le pense, pour gagner le championnat il va falloir savoir marquer ce genre de petits points par-ci par-là et lorsque le moment se présente, aller récupérer les gros points et être présent.
Jean-Luc, hier tu commentais la Formule 1 en même temps que l'Hypri de Paris, mais j'imagine que tu t'es jeté sur le replay.
Mais bien sûr, j'ai tout regardé. Non, écoute, d'abord, respect pour les pilotes, je le dis à chaque fois. Maintenant, écoute, c'est une formule artificielle dans tous les genres, les sens du terme et dans tous les genres, c'est-à-dire qu'on y rajoute le fan boost, alors on met un petit peu de plus de paix. On imagine en Formule 1 qu'il y a un vote, enfin c'est quelque chose de totalement aberrant. Pour le pilote, quoi, le plus sympa, le plus performant, le plus méritant. Alors crac, on lui met du boost, par exemple Leclerc, on va dire qu'on lui met 50 chevaux de plus que les autres pour dépasser dans la ligne droite. Enfin, pour moi, ça ne rime pas à grand-chose en termes sportifs. Encore une fois, on peut tout décider, hein. Pourquoi pas de mettre aussi 50 kilos de plus à l'un des pilotes si on veut avantager celui-là. C'est un show de démonstration, encore une fois, pour la voiture électrique. Il faut pas le prendre autrement. Maintenant, j'espère que les pilotes s'amusent. J'espère qu'ils prennent des sous. Et puis, je m'arrête là parce que je te dis, je l'ai dit hier, donc je le redis aujourd'hui. Quand on voit les énormes groupes électrogènes qui produisent l'électricité nécessaire pour ces voitures qui se déplacent dans le monde entier, là aussi, en termes de bilan écologique, ça donne quoi, hein, le déplacement de ces gros blocs diesel pour produire de l'énergie électrique pour les voitures. Enfin bon, écoute, je préfère parler de d'autres choses finalement.
Adrien, tu y étais quand même à Paris.
Il m'ennuie Jean-Luc parce que souvent il faut un pour et un contre. Oui. Je suis obligé d'être pour à chaque fois. Pourtant, je suis dans le fond un peu d'accord avec lui parce que c'est ça relève pour l'instant plus du show que de la course automobile à proprement dit, avec le bruit, avec la vitesse, avec des voitures extrêmement performantes. C'est pas encore le cas de ces voitures électriques. Ça va pas très très vite. Par contre, c'est une plateforme exceptionnelle pour les pilotes, pour plein de jeunes pilotes qui auraient eu leur place en Formule 1 et qui sont aujourd'hui professionnellement dans une belle réussite. Donc c'est aussi important qu'il y ait d'autres catégories que la Formule 1 qui donnent des volants aux pilotes, et c'est en ça que la Formule 1 est intéressante pour moi aujourd'hui. Voilà.
Juste avant de payer pour ça, donc tant mieux.
Juste avant de revenir à la F1, messieurs, petit détour par le rugby, 23e journée de Top 14, Toulon, Bordeaux, Florent Germain.
Et un nouvel essai pour les Toulonnais, une heure de jeu ici à Mayol, et Toulon qui s'envole au score 31 pour le RCT, 10 pour l'UBB qui est en train peut-être de dire adieu à une place dans les 6 après les victoires hier de La Rochelle et de Montpellier. Le dernier essai en date pour les Toulonnais, il est signé Frezia, après ceux de Nakosi, Bastaro, Ori et Savea. 31 pour Toulon, 10 pour l'UBB.
La suite de ce match juste après 14h avec Christophe Cessieux. Un mot de Formule 1 dans Radio Paddock NJ et des nouvelles de Williams qui serait à vendre.
Ouais, qui serait à vendre avec un acheteur potentiel. Mais alors là, je vous en parle plus pour que vous ne soyez pas étonnés quand vous allez entendre toutes les rumeurs. C'est un milliardaire russe, Dimitri Maspin, qui serait sur les rangs pour acheter Williams. Il y aurait même eu des discussions entamées.
On a un problème de Mazepine.
Parce
que c'est je connais son nom parce que c'est le papa Prince. C'est le papa d'un pilote de F2. C'est pour ça que je connais son nom, je n'ai aucun mérite.
J'ai cru que c'était le papa de Frins.
Non.
L'info en l'occurrence, c'est qu'il y a eu un démenti de sa part à Dimitri Mazepin, que le milliardaire a expliqué que en fait, il y avait absolument aucune négociation.
Bon, en tout cas, voir cette écurie Williams dans cette situation, c'est toujours un crève-cœur quand même.
Oui, et puis surtout, elles ont en plus de ça pas de réussite, c'est Williams depuis le début du week-end, un crash en qualif, la bouche d'égout qui se désolidarise en dessous de la monoplace de Russell. Ça fait plusieurs monocoques touchés, beaucoup d'argent quand on sait ce que coûtent les Formule 1, et quand on connaît la difficulté dans laquelle est l'écurie Williams, c'est quand même compliqué.
Merci Angie d'avoir été avec nous pour Radio Paddock. Oui, un mot Jean-Luc? Bien sûr, vas-y.
Oui, j'allais dire, c'est tragique parce que franchement là, on a tous infiniment de respect pour Sir Frank Williams, pour Patrick Head qu'on a appelé un peu à la rescousse, au sauvetage, j'allais dire, bon, qui a un rôle plus moral qu'autre chose, qui est présent, qui a été un des fondateurs de l'équipe, et ça fait mal au cœur, c'est vrai, de voir cette équipe Williams, courageux artisan britannique, il faut le rappeler, qui s'est battu. C'est Claire Williams, sa fille, qui préside aux destinées de l'écurie, et là aussi, on va pas lui taper sur la tête, mais je me demande si elle a vraiment la carrure pour mener une équipe de Formule 1 dans la tempête comme c'est le cas aujourd'hui.
Dans un quart d'heure, le départ du Grand Prix d'Azerbaïdjan, c'est à suivre en direct en intégralité sur RMC. On retourne à Bakou retrouver notre envoyé spécial Lucas Vinois pour le rappel de la grille sous l'hymne azéri.
Exactement, une grille alors qui a été beaucoup chamboulée. Valtteri Bottas sera en pole position, 8e pole position de la carrière du Finlandais, la 2e cette année. Lewis Hamilton 2e, Vettel 3e, Verstappen 4e, 5e Perez, celui qui a réalisé le plus de podiums sur cette piste à Bakou. Daniil Kvyat, le Russe 6e, Lando Norris 7e, Charles Leclerc 8e, Carlos Sainz 9e, Ricciardo 10e, et ensuite Albon, Magnussen, Stroll, Grosjean 14e, Hülkenberg, Russell, Giovinazzi 17e. Partiront des stands Robert Kubica, Kimi Raikkonen et Pierre Gasly qui lui fermera la marche dans la voie des stands.
Merci Lucas, tu seras évidemment aux commentaires de ce Grand Prix. Jean-Luc, Adrien, il nous reste une minute, vos pronostics.
Jean-Luc.
Bravo pour la patate chaude. Oui. Écoute, je l'ai dit dans les paris, dans les GG du sport tout à l'heure, c'est vrai que la logique, allez, je pense qu'Hamilton en course est une force incroyable. Donc oui, il n'y a pas de logique, s'il n'y a pas d'accrochage, et malheureusement pour Bottas, hein, qui était en mesure de s'imposer l'an dernier avant une crevaison à deux tours de l'arrivée, bah, évidemment, je pense que ça va jouer globalement entre Bottas et Hamilton. Après, il faut faire un choix. Je vais choisir Hamilton parce qu'il est tranchant comme jamais, il est détaché comme toujours, et il est dominateur comme souvent. S'il n'y a pas d'erreur et pas trop d'accrochage, je pense que c'est pour lui.
Voilà. Adrien.
Bah moi je vais prendre le penchant d'une course avec un peu de chaos, et j'ai regardé les cotes pour les paris. Il y a Verstappen et il y a Leclerc qui sont pas si loin que ça, donc voilà, une course avec rebondissement, mais c'est vrai que Jean-Luc a raison, si rien ne se passe, les Mercedes sont en bonne position, voilà.
13h55, dans un quart d'heure le départ de ce Grand Prix, vous allez le commenter autour de Christophe Cessieux, puis moi je me retrouve à 16h pour l'intégral sport sur RMC. À tout à l'heure.